France Inter.
Amis soudanais, bonsoir. Je viens d'un petit village nommé les Batignolles. On est une bande de vieilles copines, moi c'est Marie-Fleur, regroupées au sein d'une petite association écolo, venue vous dire de façon très amicale qu'il faut arrêter de couper votre forêt. Stopper cette sale manie de niquer les arbres sous prétexte de nourrir sa famille.
CO2, mon amour.
Dans le 17e, on est terriblement bio. On est bio, on est bio. Ouh, on est... Qu'est-ce qu'on est bio? And I prove you. Because ma gelapa en papier sucre est mangeable.
Denis Chessou.
Et mon string en écorce est replantable.
Bénureau en pleine forme, mais n'empêche que le bio pour votre santé, à mon avis, il n'y a pas photo. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans CO2 Mon Amour, la nature qui chuchote à vos oreilles, avec Achille Aquenin à la technique. Notre collaboratrice, c'est Camille Blanès, Thierry Dupin choisit les disques, et Xavier Pestudia réalise l'émission. Alors cette semaine, déambulation dans les allées du salon de l'agro-industrie, pardon, de l'agriculture, sans être bousculé. Ah bah oui, parce que la vache et les taureaux, avec leur roubignol de compétition, c'est un produit d'appel pour le Parisien en mal de grosses bestioles. Et j'y allais pour remettre en fait les prix agroécologiques avec le Fonds pour l'Arbre, l'OFB, la Confédération de l'élevage et les parcs naturels régionaux, sous la houlette de l'excellent réseau Haies de France, qui réunit 450 structures et qui œuvrent pour l'arbre, pour la haie et les prairies fleuries. Donc en gros, tout le contraire de la politique agricole actuelle. La ministre de l'Agriculture productiviste n'était pas là, d'ailleurs position tout à fait cohérente, vu que le mot agroécologie lui donne en général une poussée d'urticaire. Alors je salue au passage l'agence bio, dont l'avenir relève des soins palliatifs, qui est mise à l'écart dans un quasi-food truck à l'extérieur du salon. Comme ça, le message est clair. Monique Barbu, ministre de la Transition écologique et de la biodiversité, est venue, elle a fait le job, a rappelé tous les bienfaits des haies, des prairies diversifiées, bonnes pour les bêtes, le carbone, l'eau, le climat, accessoirement pour les humains. Donc un truc qui participe d'une seule santé, One Health, qui est sûrement aussi un autre gros mot. Alors il y avait d'excellents agriculteurs qui mettent l'arbre au cœur de leur système, donc des ovnis qui travaillent avec la nature, le sol, l'eau, dans un rapport apaisé et qui prouvent que l'écologie et l'économie, eh bien ça peut faire tout à fait bon ménage. Et ça dessine quand même de l'espoir, loin de la concentration agricole mondialisée en cours. Alors non, pas de bovin cette année, fallait pas l'inviter, la dermatose nodulaire n'était pas accréditée au salon. Préjudice pour les éleveurs, on le sait, qui donnent pas mal de soins pour brosser, cirer, récurer, frisoter leur génisse de concours. Adieu récompenses et médailles, adieu parades et roupiller dans la paille et se faire tâter la loyaux par des citadins nostalgiques d'une carte postale assez éloignée des 90% de bêtes qui ne voient pas la lumière du jour. Mais ce fut la revanche des petits, des sangras, des poules, des oies, des brebis, des chèvres, des cochons noirs du Bigorre. À leur tour, enfin, de prendre la lumière. Alors, j'ai discuté avec l'un d'eux, un gouic par-ci, un bé par-là. Et toi, t'en penses quoi de la PAC? Oh, bah, c'est toujours ceux du pilier hein, et de la répartition à l'hectare hein, qui gagnent. Agro-industrie, mon amour, tu tiens bien le haut du pavé avec tes monocultures intensives, tes baisses de rendement et tes mornes plaines sans abri, ratissées aux pesticides et autres fertilisants. Tes tracteurs géants guidés au GPS, tes piles de chamallows de foin bigarré et tes bâches plastiques qui claquent au vent. La LPO en fait révélait aussi il n'y a pas longtemps donc un déclin vertigineux des populations d'oiseaux des milieux agricoles. Moins 32% entre 2001 et 2024. Mais cela n'a aucun rapport avec tous les mots qui se terminent en cide. Non, non, non. Allez, trinquons et changeons de monde au lieu de faire perdurer l'ancien sous perfusion qui ne sait pas ou à peine ne plus nourrir sans détruire. Un peu de Duplon dans l'aile ? Mais non. Alors, pas d'animaux domestiques, hein, que du sauvage. On va partir dans l'Isère avec Jean-François Noblet dans sa cabane aux oiseaux et aux autres animaux.
I'm not
bah oui, donc playlist sympathique, Gorillaz qui siffle comme un oiseau. Ah bah tenez, des oiseaux vont en avoir. On part dans l'Isère.
On approche de la cabane, donc c'est un petit sentier discret. On arrive par l'arrière, de telle sorte à ne pas gêner le spectacle qui peut être devant. C'est le principe de base de nos cabanes observatoires.
On ouvre. Wow.
Sur le cahier d'observation, qui est toujours dans les cabanes, on a en oiseaux 75 espèces d'oiseaux qui ont été vues un jour ici. On a 9 espèces de libellules. On a 16 espèces de mammifères, du chat sauvage, on a du chevreuil, on a de l'hermine, du lièvre, des chauves-souris. Et puis on a 16 espèces de papillons qui ont été vues, 7 espèces d'amphibiens et 4 espèces de reptiles.
Ouais, c'est votre science participative locale, quoi.
Voilà. Et donc les gens qui viennent sont obligés. Alors s'ils veulent faire des photos, il faut être adhérent du Puyvert, mais autrement, c'est accès libre. Ils peuvent venir quand ils veulent. Et alors, ils notent leurs observations. Et il y a un petit gamin qui est venu, là, qui a vu des mésanges, des libellules, des papillons et des araignées.
Très joli, ces battements d'ailes. Donc, c'est une cabane aux oiseaux, une cabane aux animaux, ou plutôt une cabane avec une vitre sans tain qui permet aux humains de regarder les animaux sans les déranger, pour se relier, pour abolir les barrières. Alors elle est posée en Chartreuse, nous sommes dans le beau département de l'Isère, dans la commune de la Buisse. Jean-François Noblet est donc un naturaliste engagé depuis longtemps, président de l'association Le Puyvert. Et quand même, 1150 adhérents à jour de leur cotisation, et c'est pas si fréquent. Donc un vrai charisme au service d'une passion, celle du vivant sous toutes ses formes. Alors il a ouvert cette cabane, et d'ailleurs il l'a pensé, et après ça fait des petits, à ceux et celles qui savent fermer un portable. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais actuellement c'est encore peu utile pour se relier aux animaux, le portable. Bon, ça viendra peut-être. Alors il s'agit d'observer, d'apprendre, et sur soi également. Expérience d'altérité naturaliste. Alors, retrouver le silence en soi, goûter à la simplicité d'un bonheur gratuit. Ouais, sans code barre. Donc, ne faites pas de bruit, posez-vous, la nature fait du bien, on le sait, à notre santé mentale malmenée. Respirez en Isère, nous faisons le reste avec Jean-François Noblet.
C'est une vitre. C'est là le principe de base de notre géniale invention. C'est que d'habitude, les observatoires qui sont faits un peu dans les parcs, ce sont des observatoires avec des meurtrières. C'est-à-dire, on arrive et on est derrière des meurtrières. Et ces meurtrières, finalement, elles ont un impact sur la faune qu'on veut voir. Elles sont extrêmement dérangeantes. Pourquoi ? Parce que si on est un chevreuil ou un canard devant la cabane et qu'on voit cette meurtrière, en fait, les animaux regardent en permanence cet écran. C'est un peu comme le théâtre de Guignol. Et comme on est à l'intérieur, dans l'obscurité, il suffit de faire dépasser simplement un petit doigt ou de mettre une main ou un appareil photo, de le bouger un peu.
Et il le repère.
Ah, il repère en permanence. Alors, il s'enfuit. Or, dans ces observatoires qui sont destinés au grand public, en fait, les gens qui arrivent là, ils regardent un peu, ils s'approchent, ils mettent le nez, etc. Bon, les animaux s'enfuient. Et s'ils n'ont pas la possibilité d'avoir une bonne paire de jumelles ou un bon appareil photo, ben finalement, ils ne voient rien parce que c'est trop loin. Si on veut montrer la nature aux gens, avec des observatoires qui sont souvent coûteux, si ils repartent en disant « ouais, c'est bien, mais on n'a rien vu », le résultat, il est hyper négatif. Tout le monde le sait qu'en matière de tourisme ou de gastronomie, si on va dans un restaurant et qu'on est ravi, on va dire partout « ah, c'était génial, on a vu des tas de trucs, on a bien mangé, etc. » Et alors, c'est vraiment un problème important, parce que notre but, c'est de montrer la biodiversité et de la faire protéger.
Héros, là.
Quelle belle bête. Héros. Mon Dieu, que c'est beau. Regardez-moi ce paysage que vous avez là. Jamais je ne m'habituerai à la beauté de ce paysage, jamais.
Papa, vous venez tous les ans, hein? Vous venez tous les ans.
Bah dites donc, vous, grand méchant, vous me prenez pour un exalté.
Alors, Jean-François Noblet, qui est intéressant aussi, c'est l'histoire du lieu. Donc, sur cette commune de la Buisse, en Isère, il faut imaginer que là, il y a quand même déjà quelques années, eh ben, c'était quoi ? C'était une décharge ?
C'était un dépôt d'ordures, on peut dire, quasiment autorisé. Donc, le village ici, qui est assez éloigné de la commune principale, eh bien, ils mettaient leurs déchets. Et pendant des années, dans cette ancienne carrière, on a eu des déchets qui se sont amoncelés. Alors, on a nettoyé le dépôt d'ordures. Et puis, le maire m'a demandé, après, il m'a dit, mais comment je fais pour que ça ne revienne pas ? Alors, je lui ai dit, mais si tu mets un panneau défense de mettre les déchets, c'est comme si tu disais, c'est là qu'il faut les mettre.
Là, c'est bingo.
Voilà. Alors, il faut trouver une idée. Et donc, on a créé une mare pédagogique. Le conseil départemental de l'Isère nous aidait financièrement. Cette mare... Ah, vous avez vu, là ? Et voilà, c'est un rouge-gorge qui vient se baigner, là. C'est encore un peu tardif, mais... Et alors, cette mare, finalement, ça crée un point d'eau unique dans tout le secteur, parce qu'il n'y a pas d'eau au sol, il n'y a pas de rivière, il n'y a pas de source. Et donc, même le village qui est à côté manque d'eau pendant l'été, quelquefois. Et donc là, c'est devenu extrêmement intéressant. On voit les libellules, vous voyez, là, l'Anax empereur, cette grosse libellule-là, qui surveille son territoire et qui va essayer d'attraper quelques insectes. Même des fois, il attrape d'autres libellules. Et donc, cette mare pédagogique a été le moyen pour nous, finalement, avec la cabane, de faire en sorte qu'il n'y ait plus de dépôt d'ordures. Et on a réglé le problème définitivement.
Que ça qu'il va pleuvoir ? Nous pourrions peut-être nous abriter dans cette cabane.
Pour faire une cabane dans un marronnier, faut trouver des branches que le vent a cassées, quelques bouts de ficelle, un petit couteau, plein de grands piquets et se mettre au boulot. Comme le marronnier a une branche en bas, bien horizontale à hauteur des bras, faut en profiter pour y accrocher le haut des bâtons qu'on aura trouvés.
Alors, moi je reviens quand même sur l'originalité. C'est une glace sans teint.
C'est un verre spécial. C'est pas vraiment une glace sans teint, mais ça permet de photographier, d'observer, sans être vu par les animaux, parce que ça, l'extérieur reflète l'environnement extérieur. Alors c'est pour ça qu'on a des volets, parce que sinon les oiseaux risquent de se taper sur les vitres, parce qu'ils pensent que c'est l'environnement extérieur. Et donc quand on n'observe pas, eh bien, on referme les volets, la petite ficelle, on arrive à l'intérieur, on tire la ficelle, on ouvre, on referme la ficelle et ça ferme le volet. Hop. Alors évidemment, on a de la nourriture et on va faire la...
Là, c'est la séquence bouffe, là.
La petite démonstration.
Alors, qu'est-ce qu'il y a au menu, là ?
Pendant l'hiver, bon, parce que c'est pas la peine de nourrir pendant toute l'année, on a le pic vert, le pic épêche et le pic noir qui viennent. Alors, on prend des noix et on les coince dans des morceaux d'écorce qui sont sur le site. Et le pic, s'il veut taper sur une noix, eh bien, si la noix est simplement posée par terre, il donne un coup et paf, la noix, comme une savonnette, la noix part. Alors, si on la coince, alors le pic, il est super content. Parce que là,
Il fait son boulot.
Il va se mettre et tac, comme tac, un étau, tac, 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 tac. Et il va...
Le petit coup de marteau piqueur, et ça saute.
Voilà.
Il l'éclate, et c'est très bien.
Alors en fait, la vraie question, c'est de savoir où est-ce qu'on peut créer une cabane d'observation comme nous, avec ces vitres spéciales. Alors évidemment, on peut le faire dans son jardin. Mais même dans son jardin, il faut réfléchir. On a en fait deux grandes solutions. La première, on installe une cabane observatoire là où passent les gens, parce qu'on sait qu'il y a du trafic. C'est sur un chemin, il y a un parking pas loin, etc., etc. Et là, le but, ça va être d'attirer la faune près de l'endroit où on a installé la cabane parce que les gens sont là. Deuxième hypothèse, on va le faire à un endroit où il y a déjà un spectacle de nature. Donc une place de champ de certaines espèces, un col de migration où les oiseaux passent régulièrement, un endroit très appétant pour eux, un plan d'eau, une mare, etc. C'est souvent très appétant pour toute une série d'espèces. Ici, quand on a fait la mare, alors qu'on n'avait jamais vu de crapaud commun, de triton, de grenouille ici, on s'est trouvé avec des... On ne sait pas comment ils ont découvert ça. Ils sont venus tout seuls. Et ça, c'est vraiment incroyable. Et donc, là, on avait la chance d'avoir le chemin de grande randonnée juste à côté. Donc, on pouvait capter les gens. Et puis, on avait la possibilité, avec l'eau, la mare, et puis des plantations qu'on a faites, des perchoirs qu'on a installés, des nichoirs qu'on a installés. Vous voyez, là, il y a un nichoir pour des écureuils. On le voit, là.
Ah, très bien.
Voilà, on a pris un vieux tronc d'arbre avec un trou. Et puis, on a installé dans un arbre avec du lierre. D'accord. Et donc, les écureuils adorent ça. Et l'écureuil est très régulier ici. Et puis après, tout dépend de ce qu'on veut. Pendant l'hiver, on nourrit les oiseaux. Alors, on donne des graines de tournesol bio qu'on va acheter chez un paysan de l'Isère. Donc, on fait marcher l'agriculture biologique et on permet à des tas de gens d'acheter des graines pas chères.
Ce qui est important aussi, c'est l'orientation donc, du nichoir. Donc, quelques trucs, là.
Alors, d'abord, il faut mettre des nichoirs là où il y en a besoin. Si vous êtes dans une série d'arbres monumentaux, dans un parc avec plein de trous, ça ne sert à rien.
Okay.
Bon. Alors, par contre, si vous êtes dans un espace vert où il n'y a pas d'arbres creux, etc., oui, on peut mettre des nichoirs. Bon. Alors, il faut les mettre assez haut, inaccessible pour les chats, évidemment. L'orientation...
Alors, assez haut, c'est quoi? C'est 1m50,
2m? Non, c'est au minimum 2m, 2m50.
Voilà.
Et plus c'est haut, mieux c'est. Après, orientation, oui. Pas trop chaud, pas trop froid. C'est-à-dire, pas dans les courants d'air, pas plein nord, pas plein sud. Eh bien, il faut regarder en fonction de l'endroit. Il faut qu'il y ait un peu d'ombre, un peu de soleil. Il faut que ça soit mitigé. Maintenant, vous mettez un thermomètre dedans. Et puis, si ça dépasse les 45 degrés, eh bien, vous allez faire des œufs durs, quoi.
C'est ça.
Alors, c'est à éviter.
Là, ça sort de là. Là, c'est sûr.
Sur les traces du blaireau, un petit animal que Fabien Poiret, photographe amateur, apprécie particulièrement. Dans ce vaste terrier, selon lui, une petite colonie de moins d'une dizaine d'individus.
Eh bien, ils vont aller chercher l'alimentation en pleine forêt. Ce sont des animaux qui sont très fascinants et qui se laissent observer, si on est vraiment très discret, bien sûr, voilà, sans problème.
15 mai, journée mondiale des blaireaux, un choix hautement symbolique des associations. C'est en effet à partir de cette date que les préfectures peuvent réautoriser la chasse de manière anticipée. Une chasse très particulière, la vénerie sous terre, un déterrage à l'aide de chiens et de pinces.
Il faut avoir le cœur bien accroché pour supporter ce genre de supplice. C'est un supplice, c'est l'horreur au fond du terrier. C'est un sport pour certains, c'est un plaisir.
Autre signature aussi, sur le dégommage donc des animaux, la vénerie sous terre.
C'est-à-dire
effectivement, alors ça, allons-y.
Alors cette année, on a fait une grosse campagne auprès du préfet de l'Isère qui voulait déterrer les blaireaux. Et les blaireaux viennent ici tous les soirs pendant la période de reproduction des blaireaux.
Alors, qu'est-ce que l'on reproche aux blaireaux?
Alors, on reproche aux blaireaux de venir manger le maïs quand il est en lait, de manger un peu des fraises ou des raisins dans les vignobles, à certaines périodes, mais c'est quand même assez limité. Et puis surtout, ça gêne les gens qui ont des pelouses autour des piscines, parce que les pelouses bien arrosées, quand il fait très chaud, eh ben les blaireaux, c'est les seuls endroits où ils peuvent capturer, gratter le sol facile. Pour prendre des vers de terre. Alors ces pauvres blaireaux qui sont complètement affamés, parce que la terre est tellement sèche qu'ils ne peuvent plus gratter et manger les vers de terre qui sont la source principale de leur nourriture, ils viennent autour des piscines ou autour des pelouses qui sont trop arrosées, d'ailleurs en gaspillant de l'eau, dont on aurait bien besoin d'ailleurs. Et donc ça gêne. Alors, évidemment, faut tuer. J'en ai un peu ras-le-bol de voir tous ces gens qui ne peuvent pas supporter tous les animaux qui sont autour de nous. Mais que ces gens-là, ils aillent sur Mars et qu'ils nous laissent la Terre. Alors nous, on a gueulé auprès du préfet qui voulait ouvrir la chasse aux blaireaux, le déterrage. Imaginez les chasseurs en train de piocher tous ensemble, de suer sang et eau pour arriver à envoyer
un
animal avec une grosse pince, voilà. À envoyer des chiens pour tuer les jeunes, etc. Avec un plaisir non dissimulé. Non, ça c'est pas de la chasse, c'est de la tuerie inutile. Ouais. Pourquoi? Parce que chaque blaireau qui va être tué, on va rajeunir la population du secteur. Et les survivants vont faire deux fois plus de portée. Et donc, finalement, on ne va jamais éliminer les blaireaux. Et c'est tant mieux, parce que l'animal, il est super sympa. Moi, pendant le confinement, quand j'avais les cerises dans mon jardin, je prenais mon fauteuil poire, je m'asseyais sous mes cerisiers, et les blaireaux venaient manger les cerises à 3 mètres de moi, tranquille.
Et parfois, vous prenez votre fauteuil cerise pour manger des poires. C'est l'inverse.
Ouais. Voilà.
Eh bien, déjà, vous savez plein de choses. Donc, nous allons poursuivre ce voyage avec Jean-François Noblet. Oh, on a encore de la chauve-souris et puis d'autres animaux qui nous attendent. Ah, tenez, tiens.
une chauve-souris, elle met un parapluie, un grand parapluie noir découpé dans la nuit, par goût du désespoir, car tout glissait sur lui. Une chauve-souris, elle met un parapluie, elle met un parapluie. Elle marchait au radar, le sommeil l'avait fui. Elle voulait se mettre à boire, se jeter au fond d'un puits. Et une chauve-souris émet un parapluie, un grand parapluie noir découpé dans la nuit, découpé dans la nuit. Sans jamais s'émouvoir pour cette chauve-souris, le grand parapluie noir sortait de son étui. Il prenait sous son aile soin d'une belle de nuit qui boulevard Saint-Marcel le nourrissait de pluie. Puis le grand accessoire se mit à voyager dans son bel habit noir, son habit noir de jet. Après les palabres pour faire un peu d'osier, un avaleur de sabre le mit dans son gosier, le mit dans son gosier. Un acrobate servi de balancier, un vendeur de cravate le prit comme associé. Puis il se déplia sur une permanente, puis il se déplia car il pleuvait sur Nantes, car il pleuvait sur Nantes. Un jour de mauvais temps, un brusque coup de vent lui mit les pieds devant. On le laissa pour mort dans quelques caniveaux, on le laissa pour mort avec le mec dans l'eau, avec le mec dans l'eau. En voyant son squelette qui faisait sa toilette parmi les détritus et les denrées foutues, c'est la chance qui me sourit, et voilà la chauve-souris. Je le croyais perdu, le manche est revenu, le manche est revenu. Brillant comme une baleine, pleurant comme une madeleine, une chauve-souris émet un parapluie. Ils allèrent se dire oui dans le grenier de la mairie. Une chauve-souris émet un parapluie. Une chauve-souris émet un parapluie. Une chauve-souris émet un parapluie.
Il va en être question dans ces Hauts de mon amour de la chauve-souris. Bien sûr, c'était Thomas Fersen. Est-ce que vous saviez qu'un simple abreuvoir, un poteau creux ou une piscine mal sécurisée, bah, ça peut devenir en fait de véritables pièges mortels pour des milliers d'animaux sauvages, et vraiment chaque année. Et c'est pour ça que Jean-François Noblet donc, a sorti cet ouvrage qui s'appelle « Sauvons les animaux piégés ». C'est plein de conseils pratiques, cheminées, piscines, je vous l'ai dit, les câbles, etc. Et c'est aux éditions bien nommées, Plume de Carotte, éditeur de qualité. On y retourne. Et oui, nous sommes toujours dans ce département de l'Isère, on est pas loin de la Chartreuse, on est même carrément dedans. Et Jean-François Noblet est là. Qui on entend?
C'est une buse.
Oui.
Une buse, c'est une jeune. C'est une jeune qui vient voir si on a mis de la nourriture. Malheureusement, on n'a pas le petit morceau de viande, mais autrement, elle serait venue. Elles sont passées au-dessus. Hein. Oh, c'est génial, ça.
Et hop, là, elle repart. Et puis là, ça traîne.
Regardez,
oh, c'est fait, là.
Le campagnol roussard.
Ouais.
Alors, qui se reconnaît parce qu'il a des toutes petites oreilles enfouies dans le pelage, contrairement au mulot qui a des grandes oreilles. Il a une queue très courte. Et puis alors, il a cette teinte rousse sur le dessus, là. Qui est... alors ça, c'est un jeune.
Nous, on est à 1,20 m derrière la vitre. Hein.
Voilà. Et alors, lui, il ne voit pas. Et vous voyez ce qu'il fait? Il prend les graines de tournesol, ouais. Il les enfile dans ses bajoux. Et quand il en a un gros paquet, il rentre dans son terrier et il va les consommer dans le terrier,
ouais,
à l'abri pour ne pas être attrapé par un prédateur.
Mais alors vraiment, il n'a pas traîné, on est quasiment en temps réel. Hein, dans
ouais,
ce que vous avez...
ouais. Et évidemment, l'hermine et la belette sont venues faire un tour pour éventuellement s'emparer d'un rongeur.
Alors là, on enjambe, on est sur la petite banquette. On a nos deux bras comme des bons élèves, vous savez, bien pliés, en train d'écouter le maître, mais le maître, en fait, c'est la nature. Et ben là, déjà depuis une bonne heure, donc la nuit quand même, maintenant, déjà bien tombée.
C'est l'heure du rouge-gorge, en fait. Là, quand le dernier rouge-gorge chante un peu, c'est la nuit pas loin. Alors on va avoir les premières chauves-souris qui vont arriver, parce que là il y a 7 espèces de chauves-souris qui viennent boire, parce que les chauves-souris ont besoin de boire tous les soirs, et elles vont chasser un peu autour de la mare, la libellule, l'intérêt de se casser là, parce que...
Oui.
Mademoiselle Cornelia, les domestiques, ils fomentent une rébellion et ils envisagent de quitter les lieux.
Allons, vraiment ? Je savais qu'ils n'appréciaient pas cet endroit, mais j'ignorais qu'ils... Enfin, disons que c'était à ce point-là.
Vous savez qu'ils ont trouvé une chauve-souris ici récemment. Je parle de l'animal, celui qui vole la nuit.
Je le sais, en effet.
Regardez ce qu'ils disent dans ce magazine. Le ministère de la Santé déconseille fortement à quiconque de s'en approcher. Certaines auraient la rage.
Eh bien ça, là...
Jean-François, parlons de ces chauves-souris, parce qu'à la suite du confinement, les gens ont réalisé que donc les chauves-souris étaient porteuses de virus. On sait qu'il y en a certaines qui peuvent avoir 40 virus différents et qui... Bah, elle s'en porte tout à fait bien, donc il n'y a pas du tout de problème par rapport à elle. Mais ça peut faire flipper les gens.
Alors ce qu'il faut dire, c'est que dans le monde, il y a à peu près 1000 espèces de chauves-souris qui ont des mœurs, des tailles, des régimes alimentaires totalement différents. Il y en a qui boivent du sang, c'est les vampires. Il y en a qui mangent...
D'ailleurs, il y en a très très peu.
Hein. Oui, il y a 3 espèces.
Hein. Voilà.
Bon, et il y en a qu'une qui s'attaque à l'homme. Il y a des espèces qui se nourrissent de nectar, qui se nourrissent de fruits. Donc il y a des chauves-souris qui font plus d'un mètre d'envergure, et puis des minuscules qui font quelques centimètres d'envergure.
Donc alors, celles et ceux qui sont là en France et qui flippent avec ça.
Alors, il est clair que jusqu'à présent, on n'a pas encore la preuve formelle de la transmission de virus de chauves-souris aux hommes directement. Pour le moment, c'est une hypothèse, comme celle des pangolins, mais ce n'est pas avéré. D'autre part, il est évident que tous les mammifères, que ce soit les surmulots, les muscardins, les écureuils, sont porteurs de virus, de maladies transmissibles à l'homme. Et moi, personnellement, aujourd'hui, j'aurais beaucoup plus peur des surmulots qui ont tendance à pénétrer dans les villes, dans les dépôts d'ordures, et qui sont porteurs de quantités de maladies. C'est certainement beaucoup plus facile d'avoir des contacts avec des surmulots, malheureusement, alors que les chauves-souris, c'est beaucoup plus rare, qui, même si certaines vivent dans des bâtiments ou dans des greniers ou dans des caves, sont moins susceptibles d'avoir des contacts directs avec nous. En plus, en France, ce sont des insectivores. Donc, elles ont un énorme avantage, c'est de nous priver de dengue, de chikungunya, de paludisme dans le futur, etc. etc. Mais à partir du moment où on les laisse tranquilles chez elles et où elles ne nous mordent pas, parce que les chauves-souris peuvent avoir la rage aussi, comme n'importe quel chat ou chien, eh bien, le risque est vraiment minime. J'ai été mordu par les chauves-souris de multiples fois. J'ai pénétré dans des sites où il y en avait des milliers. Je n'ai jamais eu de problème. Je vous rassure, vous avez 10 000 fois plus de chances de mourir écrasé par une voiture que contaminé par une chauve-souris.
Voilà, on va pas dire chance, mais enfin, c'est comme ça.
Oui.
Ok.
C'est la bagnole qui a pris, j'ai heurté un sanglier.
Un sanglier ? C'est pas plutôt un blaireau ?
Tiens, regarde. Là, il y a les herbes qui bougent en face, là.
Ouais.
C'est le blaireau, c'est un jeune. Tiens, ah, il vient boire. Il vient boire. Et puis, il va
quel
peut-être
joli
faire
museau.
Ouais, alors c'est un animal extraordinaire.
Sacré lentition, quand même.
Ouais.
Ça y va, les grillages, ils aiment bien.
Puis alors, les griffes qu'ils ont, ils tournent, ils viennent là. Près de l'eau, il va chercher un peu des insectes, des petits vers de terre, etc. Il vient aux pommes. il vient aux pommes. Il est là. Là, on a eu une belle démonstration. On est là tranquille, dans un endroit calme. On est assis, on est un peu à l'obscurité, parce que si on n'était pas à l'obscurité, les vitres ne marcheraient pas comme elles devraient. Les animaux nous verraient à travers. C'est un moment de plénitude, de calme, de sérénité. Mais vous savez, Denis, pendant la période de confinement, évidemment, on ne pouvait pas aller dans nos cabanes comme on le fait aujourd'hui. Mais on s'est bien rendu compte, après le confinement, à quel point la nature a manqué aux gens. Ils se sont tous rués sur les plans d'eau, les rivières, les forêts.
Les potagers.
Comme si ça leur manquait. Et c'est vrai qu'il faut s'en rendre compte quand on en a besoin.
Donc c'est très enthousiasmant, en fait.
C'est
ça.
Indispensable. Et moi, quand je déprime un peu, ça m'arrive quand j'entends les nouvelles du monde. J'ai plutôt envie d'aller dans la nature et puis de plus penser à autre chose que d'ouvrir mes yeux, mes oreilles.
Ça n'empêche pas les deux. On peut être un citoyen informé et en même temps avoir besoin de nature.
Oui, bien sûr.
Mais quel bonheur! Mais quel bonheur à chaque fois de retourner sur cette côte! De voir ces paysages! Oh, et regardez là-bas ces cueilleurs de moules! Oh, comme c'est pittoresque! C'est...
Oh, renard! Renard! Non, faut pas que je fasse de bruit avec la vitre. Non, mais il s'en fiche, là.
Quand vous avez tapé sur la vitre, hein, vous avez vu, il a levé le nez.
Oui, il avait le nez, mais enfin, bon, il a juste levé, c'est tout. Alors là, on peut parler, il nous entend pas.
Ouais.
Mais oui, vas-y, bois. Allez, hop, ça y est.
C'est... Alors lui, il va plutôt essayer de manger des sauterelles. Et les... Le renard, il vient manger aussi les graines de tournesol. Si je mettais des graines de tournesol, il viendrait. Le blaireau, lui, vient aux noix que je mets par terre.
D'accord.
Alors c'est rigolo, parce que le blaireau, pour casser une noix... Il n'arrive pas à la prendre entre ses deux mandibules et à la casser spontanément. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la noix entre ses mandibules et il met sa tête contre le sol et il pousse avec tout son corps et pour aplatir la noix avec les deux mandibules.
Au lieu d'acheter un casse-noix.
Le renard ne ferait pas ça, lui. Ah, il n'oserait pas casser une noix comme ça.
Bon, bah écoutez, on va
descendre. C'est l'heure des chouettes, bientôt. On a un nichoir, un chouette-ulotte, là, dans le coin, et... En ce moment, alors, c'est les petits qu'on entend. Alors, les petits, c'est... Yik, 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 yik. Ils appellent la femelle chouette. Alors, la chouette, évidemment, elle répond. Elle fait... Ça, c'est la chouette ulotte. Et les petits, en ce moment, poursuivent un peu les parents pour se faire un peu nourrir. Oui. Mais les parents vont commencer à les chasser pour qu'ils soient autonomes.
L'autonomie, très vite.
Voilà.
Nous, ça prend 28 ans, 30 ans, mais eux, c'est quand même beaucoup plus rapide. Bon, bah Jean-François, on se refait un petit tour dehors, là?
Ouais,
allez, on y va quand même, parce que moi, j'ai envie de respirer, là, maintenant. Hop.
On va fermer les vitres.
On ferme les vitres, ça y est. Oui. Avant de quitter le lieu, une, deux, trois.
Ah, wow. On entend les sauterelles.
Ah ouais.
Là.
Ah, il y en a encore, là.
Ce petit grésillement, là, c'est une sauterelle.
Qu'est-ce que l'on se souhaite? Mais quand je dis « on », c'est-à-dire nos amis qui nous écoutent.
Ben moi, je vous souhaite de passer des vacances dans la nature. Et puis, le soir ou le matin, tôt le matin ou tard le soir, vous promenez sans bruit, doucement, de regarder ce qu'il y a autour de vous. Et vous allez découvrir un monde extraordinaire qui ne demande qu'à cohabiter avec nous. Et franchement, ça nous fera du bien.
On va quitter ce joli coin de l'Isère et de Pré-Chartreuse. Et on y va. À bientôt, Jean-François Noblet.
À bientôt, Denis.
Alors, des cabanes comme celle-là, vous en avez maintenant une dizaine hein, dans le pays voironnais. Vous prendre par la main dans le Cantal avec Marie-Hélène Lafont, chez Claudie Hutzinger, chez Georges Sand, ça c'était la semaine dernière, et avec Jean-François Noblet, avec la nature comme fil vert, et ben, c'était bien du CO2, mon amour, fait à la main. Un petit artisanat radiophonique avec Julien Thévenot qui a mixé ce reportage, Camille Blanès, Xavier Pestugia qui a réalisé, qui a colorisé cette émission, et c'est lui qui va coloriser la semaine prochaine. Où ça? On va parler des vautours. On va aller à la maison des vautours à Rémusat. Nous serons donc dans les parcs naturels régionaux des Baronnies. Vous verrez ça. Petite pensée vers Philippe Duclos, qui est un ami technicien, qui va partir. Mais merci à toi, Philippe, vraiment pour tout le travail et aussi ton amitié. Je peux vous retrouver sur Instagram, sur LinkedIn, et puis, vous retrouvez l'application Radio France, CO2 Mon Amour, et aussi les éditos. Vous savez tout. Sauvons les animaux piégés. Jean-François Noblet aux éditions Plume de Carotte. Ah, allez, je vous souhaite une très bonne fin de dimanche.